France Inter.
Aujourd'hui, des animaux très très bizarres, racontés par
Marie Trébert, vulgarisatrice scientifique et vidéaste sur la chaîne YouTube La Boîte à Curiosités.
France Inter, la Terre au carré, Monsieur Vidard.
Vous l'avez sûrement déjà croisé sur Internet, une espèce de gelée rose flasque affalée sur elle-même, l'air grognon comme si elle venait de rater son train. Le blobfish Psychrolutes marcidus pour les intimes. En 2013, il a été élu sans pitié l'animal le plus laid du monde par la très sérieuse Ugly Animal Preservation Society. Et depuis, sa tronche est devenue un mème mondial. On se moque, on ricane, mais est-ce qu'on le connaît vraiment? Eh bien non, parce que le blobfish n'est pas moche, ou du moins pas dans son milieu naturel. Ce poisson vit dans les profondeurs de l'océan, jusqu'à 1200 mètres de fond, là où la pression est écrasante et la lumière absente. Et pour survivre là-bas, eh bien, il a développé une adaptation géniale. Un corps gélatineux, sans squelette dur ni vessie natatoire. Une sorte donc de sac mou, parfaitement calibré pour flotter sans effort, juste au-dessus du fond marin. Dans les abysses, c'est un modèle d'élégance biomécanique. Mais quand on le remonte à la surface, alors là, catastrophe. Le changement de pression est tel que son corps se décompose littéralement, il se ratatine, s'affaisse, dégouline comme un vieux flan. Et c'est là, pile à ce moment de désastre anatomique, que les scientifiques ou les photographes le prennent justement en photo. Alors forcément, ça donne un air un peu vaincu. Heureusement, cette année, le blobfish a pris sa revanche en mars dernier. Il a été élu poisson de l'année en Nouvelle-Zélande, une manière de saluer non seulement son allure unique, mais surtout d'alerter sur la destruction des grands fonds marins par le chalutage de fond. Car cette méthode de pêche qui racle les abysses comme une charrue détruit les habitats profonds et condamne des espèces qu'on connaît à peine, des espèces comme le blobfish. Alors la prochaine fois que vous verrez sa tête sur les réseaux sociaux, rappelez-vous, ce n'est pas un monstre, c'est un survivant, un ambassadeur et peut-être même une icône de ces animaux bizarres dont nous allons parler aujourd'hui. Et dont on va parler en particulier avec vous, Marie Trébert. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi dans le cadre de cette journée spéciale où les enfants prennent le micro à l'occasion du lancement de la chaîne Mon Petit France Inter. Vous avez une passion, paraît-il, pour les animaux bizarroïdes. Ben, ça tombe bien parce que vous avez en face de vous 5 petits cerveaux en ébullition, pressés de vous poser toutes sortes de questions. Je vous présente donc Eliès, 6 ans et demi, Abel, 9 ans, Johan et Margot, presque 10 ans, et Romane, 12 ans. Bonjour.
Bonjour
à tous les 5, on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui avec Marie pour parler de ces créatures assez étonnantes. Pour commencer d'ailleurs cette émission, j'aimerais vous demander à tous les 5 si vous aviez un animal qu'on peut qualifier de bizarre, mais que vous, vous aimez bien. Est-ce que Abel, tu veux répondre le premier à cette question ?
Oui, pourquoi pas.
Alors, quel est ton animal bizarre que t'aimes bien ?
J'en aime plusieurs, mais bon, on va commencer par le premier, le tardigrade.
Ouais.
Un animal qui arrive beaucoup à survivre.
Mmh. Et qui ressemble à quoi ?
Oh bah, il est super petit, 1 mm ou presque.
Oui. Et tu l'aimes beaucoup ?
Oui.
Bon, on va en reparler tout à l'heure parce que je crois que Marie, elle l'a dans son catalogue d'animaux bizarres justement. Eliès, toi ?
Tardigrade aussi.
Ah oui ? Comme ton frère en fait.
Oui, ouais. Il fait 1 mm et oui. Il est aussi surnommé ourson d'eau.
C'est vrai. Margot ? Est-ce que t'as un animal bizarre, toi, que t'aimes bien ?
Non.
Non ?
Pas forcément.
T'aimes tous les animaux ? Même s'ils sont un peu bizarres ?
Oui.
Johan ?
Pareil.
Bon, et Roman ?
Non, il n'y en a pas en particulier. Bon. Enfin, il y avait le blobfish, mais...
C'est vrai, on l'a pris déjà. On va en reparler aussi avec Marie tout de suite. Pourquoi d'abord vous intéresser aux animaux qu'on trouve moches ou bizarres, Marie Trébert ?
Bah, pour leur faire justice.
Ouais.
Bah, parce qu'en fait, je trouve ça chouette de diversifier un petit peu cette vision qu'on a du règne animal et de se dire que quand on dit, par exemple, une guêpe, on le verra tout à l'heure, il y a plein d'espèces de guêpes. Une guêpe, ça veut tout et rien dire. Et que donc, c'est chouette de pouvoir se dire que bah voilà, il y a plein d'animaux différents, plein d'espèces différentes. Et ça permet d'éveiller une petite curiosité naturaliste et scientifique que j'adore.
Alors vous, c'est ça, parce que vous les étudiez scientifiquement. Hein, c'est ce que vous relatez quand même sur votre chaîne.
C'est ça. Moi, je fais de la vulgarisation scientifique. Donc, je m'intéresse à toutes ces espèces. Hein, toutes ces espèces animales un peu bizarroïdes et puis j'en fais des petites vidéos pour qu'on puisse apprendre à les connaître davantage.
Alors tous les animaux bizarres dont nous allons parler, on a mis leurs photos en story sur le compte Instagram de la Terre au Carré. Ça permettra aussi aux auditeurs et aux auditrices de voir à peu près de quoi on parle. Comme le blobfish par exemple, on va commencer avec lui. Est-ce que d'abord autour de la table, vous le connaissez le blobfish ou pas?
Vous l'aviez vu?
Johan, toi tu ne l'avais pas vu? Alors on va te montrer sa photo tout de suite. Voilà, est-ce que tu le vois bien, Johan?
Oui.
Voilà. Est-ce que tu le trouves beau, ce blobfish?
Non.
Non, pas du tout. Il ressemble à quoi pour toi? Qu'est-ce que tu vois sur cette photo?
Il est gros, on a l'impression qu'il a un gros nez.
Ah oui, c'est vrai, oui.
C'est vrai, c'est ça. Et comme disait Mathieu, ça, c'est pas vraiment représentatif du poisson, puisque ça, c'est quand il est sorti de l'eau. Parce qu'en vrai, un blobfish, sous l'eau, dans les profondeurs, donc à plus de 1000 mètres de profondeur dans les océans, ça ressemble à un poisson relativement normal.
Ouais, un peu épais quand même, un poisson qui aurait bien mangé quand même.
Oui, parce qu'il a un corps très gélatineux pour supporter toute la pression, donc il y a beaucoup de poids, beaucoup de pression sous l'eau, donc faut quand même réussir à survivre. Ouais. Et donc il a un corps tout gainé, tout beau, mais quand on le pêche, ça dégouline, plus de pression.
Donc on le trouve dans les grandes profondeurs, Marie Trébert, c'est ça?
Oui, c'est ça, on le retrouve à plus de 1000 mètres de fond, et donc la photo qu'on voit là, elle est iconique, parce que le blobfish... On le connaît comme cette photo. Ouais. Et ça, c'est une photo qui a été prise en 2003 par des scientifiques australiens qui ont fait une expédition. Et en remontant dans leur filet des espèces qu'ils voulaient étudier, ils ont trouvé ça. Ils se sont dit, qu'est-ce que c'est? On va le surnommer Mr. Blobby. Donc, ils voulaient à tout prix le prendre en photo. Sauf que, entre la pression, ils l'ont remis dans du formol, ressorti, etc., c'est pas très représentatif.
C'est ça, on dirait un vieux flan. Hein,
c'est un vieux flan, la fraise, périmée peut-être. Voilà.
Abel, comment tu le trouves, toi?
Avant que... C'est vrai qu'il est un petit peu bizarre.
Oui, oui.
Je n'exagère peut-être pas.
Non, t'exagères pas du tout.
Parce que là, on me dirait... C'est vraiment... On dirait qu'il a... D'abord, il a un gros nez, c'est vrai. Du haut, on voit ses petites nageoires et son air tout tristoun.
C'est vrai, il a l'air triste. C'est vrai, t'as raison.
Il a l'air triste.
Il a un truc horrible dégoulinant de la bouche.
Ouais, et tu sais ce que c'est?
Non.
Et c'est un petit crustacé, en fait, qui est coincé dans sa bouche, qu'il avait dû avaler et qui sort. Vous voyez ici, juste là. On dirait de la bave, mais non. C'est ce qu'il avait mangé.
Et alors, ce qui est incroyable, c'est que cette photo, elle a fait le tour du monde. Hein.
Complètement.
C'est devenu vraiment une star des réseaux sociaux, ce blobfish.
Non seulement c'est devenu une star, mais parce que il est quand même incroyablement rigolo avec sa tête, mais ça a permis de mettre en avant une histoire qui est celle des poissons des abysses. Et aussi de se dire, on voit une image, mais c'est pas tout à fait la bonne histoire. Et donc, ça a permis aussi de raconter les expéditions scientifiques, ce que font les scientifiques pour étudier les poissons des profondeurs, etc. Et voilà.
Donc le blobfish, allez voir sa tête, je pense que tout le monde la connaît, mais là vraiment c'est tout à fait particulier, mais on l'explique effectivement par cette histoire de pression. Quel est son mode de vie à ce blobfish dans les profondeurs, Marie Trébert?
On ne connaît pas grand-chose et c'est ça qui est intéressant justement, c'est pour ça que c'est important de parler de ces espèces-là, même si c'est rigolo, c'est qu'on sait bien si ça nous fait rire, mais derrière ça peut nous permettre de réfléchir un petit peu. En fait, on ne connaît pas encore grand-chose sur ces espèces qui vivent très très profond, parce que on ne peut pas trop y aller dans ces grands fonds. Donc, à part remonter des choses de filets, etc. Ouais,
à cause de la pression, justement.
À cause de la pression. Donc, il y a quand même des expéditions un peu sous-marines. On peut faire des filets, etc. Mais voilà, on sait un petit peu des choses à partir de ce qu'on a récupéré de lui. Donc, il n'a pas de vessie natatoire. Donc, la vessie natatoire, pour vous expliquer, c'est comme un petit flotteur. Par exemple, les poissons rouges, ils flottent dans leur aquarium. Et c'est parce que à l'intérieur, il y a comme un petit ballon rempli d'air. Et ça permet de flotter. Lui, il n'en a pas parce qu'il n'a pas besoin de flotter quand on est très, très, très profond sous l'eau. Donc ça, c'est intéressant. Il n'a pas de squelette dur parce que pareil, il y aurait tellement de poids sur son corps que ça casserait.
Ouais.
Donc c'est plus gélatineux, cartilagineux, etc. Et au final, on ne connaît pas trop ses comportements sociaux. On ne connaît pas grand-chose de lui pour l'instant.
Qu'est-ce qu'il fait de ses journées, le blobfish?
Il chasse. Généralement, quand on est dans les grands fonds, on attend que la becquetée... on ne peut pas trop se déplacer, chasser activement. Donc, est-ce que vous saviez que dans les abysses, par exemple, il y avait de la neige? Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Ah bon?
Abel. Je me souviens qu'on m'avait parlé d'une certaine neige organique de certains, par exemple de certains animaux morts qui tomberaient dans les abysses et que certains poissons comme le blobfish qu'on nous a montré peuvent se nourrir peut-être.
Bravo, Romane, t'avais entendu parler de ça toi ou pas?
Non, pas du tout.
Ouais, moi non plus, jamais. Il y a neige dans les... C'est ça, en fait?
Alors, c'est ce qu'on appelle de la neige marine, et c'est toutes les particules en surface. Alors, ça peut être des restes d'algues, des poissons morts, du caca de baleine aussi. Ouais. Beaucoup de choses organiques qui vont tomber vers le fond des abysses, et ça va nourrir toutes les espèces de poissons qui ne peuvent pas aller chasser d'autres poissons ou qui ne peuvent pas bouger très vite. Et donc, elle est très, très importante, cette neige marine, pour tous ces animaux-là.
Parce que c'est quoi? C'est une sorte de sédiment qui permet de se nourrir aussi?
C'est des petites matières organiques, des petits déchets, des petites choses. Ouais. Bah, et du coup, ça permet de, comme quand on met des petites paillettes de poissons dans son aquarium, sauf que ça tombe beaucoup plus profond. Ouais. Et ça nourrit tout le monde.
Marie, vous nous avez apporté plein d'images à nous montrer. Alors, on commence par quel animal? On va faire un petit tour de table, justement, et puis on va poster sa photo également sur le compte Instagram de la Terre au Carré.
Ouais, bah moi, j'avais une question pour vous, les enfants. Vous connaissez les dauphins?
Oui.
Oui.
Est-ce que ça, c'est un dauphin?
Oui.
Il a l'air un petit peu bizarre.
Qu'est-ce qu'il a de bizarre,
bien,
ce dauphin?
C'est bien un dauphin.
On dirait qu'il y a son... Ah, d'accord, j'ai cru...
Roman, est-ce que tu veux regarder ce dauphin, nous le décrire, s'il te plaît?
Bah, il est gris, il a un long museau et il a une nageoire.
Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il a de particulier, Marie?
Pour l'instant, rien, bah justement. Oui. Parce que tout à l'heure, je disais, quand on dit dauphin, dauphin, c'est quoi un dauphin? Est-ce que vous connaissez d'autres espèces de dauphins?
Alors, Johan, il a une réponse.
Je sais pas si c'est un dauphin, mais c'est rose et ça a une grosse bosse sur la tête.
Ouais, alors t'as des dauphins, effectivement, d'eau douce, alors qu'on appelle le botto aussi, qui vivent dans l'eau douce. Il n'y en a pas que dans la mer des dauphins, c'est exactement.
Margot a une réponse aussi.
Le dauphin blanc?
Il y a des dauphins blancs, il y a plein de dauphins. Et moi, je voulais vous en montrer un que j'adore. C'est le dauphin de Risso. Il est incroyable, il y en a même dans la mer Méditerranée. Ça, c'est un dauphin, il est assez rigolo parce que quand il naît, tout petit, il est tout gris. Et en fait, en grandissant, vous voyez, il est tout rayé, parce qu'en fait, c'est un animal qui aime beaucoup jouer, un peu se castagner avec ses copains, parce qu'ils vivent dans des grands groupes familiaux.
Il a plein de taches blanches, en fait,
voilà,
c'est ça?
Voilà, il est tout rayé, parce qu'en fait, il se mordit, il se bat un peu. Et donc, les scientifiques, ils sont capables de donner l'âge d'un dauphin de Risso. Plus il a de rayures, plus il est blanc, plus on sait qu'il est vieux.
D'accord.
Et donc, s'il est tout gris, c'est qu'on sait qu'il est jeune, parce qu'il n'a pas encore des cicatrices. Mais c'est des cicatrices, c'est pas des cicatrices, parce qu'il y a un bateau qui leur a fait mal ou quoi, c'est juste... des interactions sociales, on se mordille, on joue.
Elias, tu avais déjà vu, toi, ce dauphin comme ça?
Non, mais je voulais dire des dauphins un peu plus bleus.
Ah oui? T'as vu des dauphins bleus?
Non, mais je crois que c'est plus bleu, les dauphins.
Des dauphins bleus, il y a des dauphins roses, comme tu disais, Johan. Qu'est-ce qu'on a comme dauphins?
Donc on a des blancs, on les a.
Noirs et blancs, on a des dauphins...
On m'a parlé de certains dauphins qui vivaient de certains dauphins roses. Ils sont pires prédateurs que les piranhas dans l'Amazonie.
Ah oui?
C'est possible, les dauphins d'eau douce, c'est possible, qui mangent beaucoup, beaucoup de poissons et qui ont des très longs becs justement pour chasser. Si vous regardez celui-là, le dauphin de Risso, il n'a pas de bec.
Oui, c'est ça. Hein,
alors que celui d'avant, il en a un.
Il est un peu appétit sur la photo. Ouais.
Alors de quoi il se nourrit?
Le dauphin de Risso?
Oui.
Alors le dauphin de Risso, il va manger des petits calamars, des poissons... plein de choses.
Faut être calé, hein, Marie, parce que vous avez vu...
Ouais, je me fais gratiner, là.
Les enfants, ils ont plein de questions à vous poser. Margot, oui.
Mais les dauphins, en général, ils vivent dans la mer au milieu, dans les abysses
Alors, ça dépend, mais plutôt en surface, donc là où il fait jour, parce que c'est des prédateurs, des animaux qui aiment chasser activement. Et donc, ils vont chasser les poissons. Donc, on va les retrouver plutôt, par exemple, le dauphin que vous avez vu juste avant, le dauphin qu'on connaît tous, le grand dauphin. On va le retrouver plutôt près des côtes, parce que c'est là où il y a le plus de poissons, finalement, qui est près de la surface.
Mais vous disiez qu'il y avait des dauphins d'eau douce aussi. Hein.
Il y a des dauphins d'eau douce
aussi.
C'est ça,
donc on les trouve dans tous les milieux. Est-ce qu'avant la pause, Marie, on pourrait voir une photo de rat taupe nu, s'il vous plaît? Moi, j'aime bien cette animal. Voilà, alors pareil, est-ce que vous le connaissez celui-là?
Oui.
Tout le monde le connaît, le rat taupe nu?
Ah, vous êtes fort.
Ouais.
Non.
Roman? Ah, Margot le connaît pas? Roman, tu le connais? Tu peux nous le décrire, s'il te plaît, en quelques mots?
Il a des très longues dents et il a la peau du corps toute fripée.
Voilà. Margot, tu l'avais jamais vu?
Non.
Et qu'est-ce que t'en penses en voyant sa photo comme ça? Franchement, quelle impression tu as?
J'ai l'impression que c'est un peu comme... un phoque mélangé
c'est vrai. Mélangé à tout un tas de trucs. Hein. Elias, qu'est-ce que tu en penses, toi, du rat taupe nu?
Ça... on dirait qu'il sort d'un bain.
Oui, il est tout fripé, t'as raison. Exactement.
Il serait resté très longtemps dans
le
bain.
Très longtemps dans son bain, quand même. Ouais. Hein.
Alors, il vit où, cet animal? Parce qu'il est petit, en réalité, Marie.
Alors, il vit en Afrique. Ouais. Ce qui est incroyable avec le rat taupe nu, c'est qu'on appelle ça une espèce eusociale. Je pense que ça vous dit peut-être pas grand-chose.
Ça mérite une explication.
Voilà, eusociale. Est-ce que vous connaissez les fourmis et les termites? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces animaux?
Ils vivent dans la terre.
Ils vivent en...
Ah oui, ça me revient. Ils ont les rat taupe nu, ils ont aussi une reine.
Exactement.
Et, enfin, ils se nourrissent de racines mortes. Ils vivent, comme tu l'as dit, ils vivent en Afrique. Des fois, ils se font attaquer par un serpent ou un scorpion.
Ouais, exactement. Il connaît tout.
Hein. Oh, ouais, il connaît, va faire l'émission de
Bajabou Kiné.
Il ne parle pas beaucoup.
Comment ?
Il
ne parle pas beaucoup, mais c'est... donc, les fourmis et les termites sont des... Il y a des fourmilières, donc c'est-à-dire qu'on vit en colonie. Il y a des ouvrières, il y a une reine, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît chez les insectes. Mais alors, chez les mammifères, chez les rats, c'est assez incroyable. Ils vivent pareil. Il y a une reine qui vit sous terre et elle a des ouvrières. Il y en a qui vont s'occuper des bébés, etc. Et chacun a son petit rôle dans la colonie. Donc ça, c'est assez extraordinaire.
Et donc, il a ses deux dents, là, c'est ça c'est...
Voilà, parce qu'en fait, c'est une espèce... Donc, vous voyez, tout petits yeux, bah, parce qu'en fait, il vit quasiment dans le noir. Donc, c'est pas très important. C'est pour ça qu'il est moche, mais parce qu'en fait, les yeux, ça sert pas à grand-chose quand on est dans le noir.
Abel, pardon.
Il paraît aussi qu'il il a pas besoin de ses yeux parce qu'il a un très bon flair.
Exactement.
Et alors, il gratte avec, avec ses dents,
et en fait,
justement,
ses dents, je sais pas si vous savez, mais chez tous les rongeurs, donc les rats, les lapins, etc., les dents, elles poussent à l'infini. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de ronger des choses, parce que sinon, les dents, elles vont pousser super long.
Ouais.
Et donc, ce rat tout nu, pour creuser ses galeries, il va utiliser ses grandes dents, et elles vont s'user au fil du temps. Mais donc ça, c'est son outil pour creuser.
Et c'est un animal qu'adorent les scientifiques, d'ailleurs.
Ah oui,
il
est très, très étudié, parce que c'est assez extraordinaire. Par exemple, est-ce que vous savez combien de temps ça vit une souris ou un rat normal ?
Sa vie, ça dépend si on utilise, s'il y a des humains.
Dans la nature ou en captivité ?
Dans la nature,
oui.
Ouais, c'est 3-4 ans, une souris ou un rat. Et est-ce que vous savez combien de temps est capable de vivre le rat au pneu ?
2 ou 3 ans.
Mm-hmm. Qui a une autre idée ?
Romane.
10 ans. 10 ans.
Qui dit mieux ? Eliès ?
Un peu plus de 100 ans.
Oh là
quand même, Eliès, là, quand même, ça...
Margot.
5 ans.
5 ans, il est capable de vivre 30 ans.
Wow,
et ça, c'est incroyable, parce qu'on se rend compte que... il est moche comme ça, sa peau, elle est super bizarre, mais il vieillit pas vraiment. Sa peau, elle vieillit pas vraiment. Il a pas de cancer, ça n'existe pas chez cet animal, alors que chez les souris et les rats, justement, oui. Donc aujourd'hui, on s'interroge sur... Qu'est-ce qui se passe avec cet animal ? Comment il est capable de ne pas avoir de maladie et de survivre aussi longtemps et de ne pas vieillir presque ?
On a trouvé son secret ou pas ?
Alors oui, il y a plusieurs pistes. Alors, on a découvert une molécule qu'ils produisent en grande quantité qui s'appelle l'hyaluronane et qui empêche les cellules de se diviser de manière un peu anarchique. Et donc ça permet de vivre plus longtemps, par exemple.
On va découvrir d'autres animaux bizarres avec vous, Marie, ainsi qu'avec Eliès, Abel, Johan, Margot et Romane. Et puis bien sûr, nous attendons vos messages et vos questions, et vos messages vocaux d'ailleurs. Si vous avez par exemple entre 8 et 12 ans et que vous avez envie de poser des questions à Marie sur ces animaux bizarres ou de témoigner, eh bien faites-le dès maintenant sur l'application Radio France. On écoutera vos messages amis de France Inter dans quelques instants.
France Inter, la Terre au carré. Mathieu Vidard.
Journée spéciale, vous le savez, avec les enfants qui prennent le micro pour le lancement de Mon Petit France Inter, une chaîne entièrement réservée aux enfants qui démarre donc aujourd'hui. Et pour parler d'animaux bizarres dans cette terre au carré, Marie Trébert, naturaliste et vulgarisatrice scientifique, est avec nous, ainsi qu'Eliès, Abel, Johan, Margot et Romane. Là, je crois que nous allons passer, Abel, à ton animal préféré, quand même.
Mon animal bizarroïde préféré.
C'est ça. On a fait une séquence rien que pour toi et ton frère, Eliès, qui nous avait dit aussi que le tardigrade était votre animal préféré. Marie, évidemment, il était dans votre liste d'animaux bizarroïdes.
Iconique, le tardigrade. Ouais. Incroyable de se dire que ça, c'est un animal.
Ouais.
Microscopique, mais c'est bien un animal. Tu sais ? Qu'est-ce que tu sais sur le tardigrade ?
Qu'il peut, par exemple, rester dans l'espace sans combinaison.
C'est vrai.
C'est vrai, c'est adorable.
Il peut tenir dans le vide spatial sans craindre les irradiations, les grands froids, la manque d'oxygène, et patati et patata, j'en passe.
Margot, comment tu le trouves, toi, ce tardigrade ?
Moi, je le trouve intéressant, petit, et surtout en image, avec un seul œil.
Ah, c'est pas un œil. Vous savez ce que c'est que cette espèce de trou là ?
C'est comme sa bouche, et s'il veut se nourrir, il peut en sortir une sorte de pic.
Oh là là, exactement, ça s'appelle un stylet.
Par contre, quand il n'y a pas assez de nourriture, il peut aller jusqu'au cannibalisme.
Ah, ils se mangent entre eux ?
Mm-hmm. Bah oui, ça peut.
Ils peuvent se manger entre eux.
Mm-hmm. Et disons, ça peut devenir un petit peu violent entre eux.
Johan, comment tu le trouves, toi, le tardigrade ? Tu le trouves joli ou carrément moche ? Tu peux y aller, hein ?
Il est stylé, puisque il a pas d'œil et il a une bouche.
Mm-hmm. Ouais. Très stylé, effectivement, le tardigrade. Margot ?
Et du coup, comment il est censé voir ?
Ah, ça c'est une très bonne question. Alors, il a pas d'yeux, mais comme je te disais, en fait, parfois les animaux, ils vivent dans des milieux, on n'a pas besoin de voir. Par contre, on a besoin de sentir, on a besoin de pouvoir attraper des choses, on a besoin d'avoir d'autres sens. C'est vrai que quand on parle d'animaux, nous, humains, on projette beaucoup nos propres sens, le toucher, la vue, entendre, et on se dit, mais comment ils font ces animaux s'ils peuvent pas voir ? En vrai, ils n'ont pas besoin forcément de voir. Et je reviens sur cette histoire d'espace, parce qu'en fait, effectivement, il y a des tardigrades qui sont partis dans l'espace en 2007. C'était une mission organisée par l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Et donc, c'est une mission spatiale qui s'appelait TARDIS, Tardigrade in Space.
Ah, carrément, rien pour lui, ouais. Une mission organisée.
Ils sont partis sur l'ISS. Et donc, là, on a pu tester un petit peu sa réputation d'immortel, d'increvable. Et donc, ils ont survécu au vide spatial, à moins de 100 degrés... On leur a mis des rayons, tout ce qu'on peut imaginer. Et en fait, ils sont capables de survivre, comme vous le disiez, à plein de choses incroyables.
Mmh. Romane, qu'est-ce qui t'inspire le tardigrade ?
Il ressemble un peu à un sac poubelle pour le coup.
Ouais, sac d'aspirateur aussi, ah oui, ça. Un petit sac d'aspirateur.
Mais qui serait bien gonflé déjà par la poussière, quand
c'est
même.
C'est ça, bien gonflé. Mais il mange beaucoup, d'ailleurs, là on le voit, hein, tout ce qu'il y a là-dedans, la petite masse verdâtre, c'est un peu ses aliments. Et alors, par contre... Est-ce que vous pensez qu'il est vraiment immortel, ce tardigrade ? Comment ça se passe ?
Il arrive bien à survivre, d'accord, mais par contre, il doit... moi aussi, j'ai vu le documentaire, hein, et oh.
Elias et Abel ont vu un film sur le tardigrade, donc ils sont absolument...
Non, un documentaire.
Oui, c'est un film à la télé.
Et alors, ça s'appelle comment ?
Il arrive à vivre un an ou deux.
Mm-hmm.
Pas plus.
Et tout à l'heure, tu disais que ça s'appelait comment ?
Il peut être en symbiose et là, il peut vivre beaucoup plus longtemps qu'un an ou deux.
Alors, c'est pas la symbiose, mais c'est presque ça. Ça s'appelle la cryptobiose. Et la cryptobiose, en fait, le tardigrade, s'il est stressé, c'est-à-dire s'il se passe des choses qui le menacent de mort, eh bien, il peut enlever toute l'eau de son corps. Oh. Et il va se dessécher. Et ça va devenir un petit croûton tout sec. Et à partir de là, il peut résister à tout. Mais ce qu'on ne dit pas, parce que tout le monde dit oui, le tardigrade est immortel, c'est incroyable, c'est que s'il est dans son état vivant et qu'on le met dans vie spatiale, il va mourir. Il faut qu'il soit dans cet état particulier de cryptobiose. C'est un peu comme une grande hibernation. Mais par contre, si demain on a des tardigrades et qu'il fait très très chaud dehors et qu'ils n'ont pas le temps de se mettre en cryptobiose, ils vont mourir.
Et si on le réhumidifie après, il revient.
On peut le réhumecter tel un petit crouton dans sa soupe. Du coup, il va revenir à la vie et à l'activité.
Il paraît qu'il résisterait aux radiations nucléaires aussi.
Tout à fait.
Il survit à tout. Hein. Ouais. Je parle radiation nucléaire, comme tu as dit, vide spatiale, poison. Molosse enragé, ça compte quand même, non ?
Ouais.
Molosse enragé.
Oui, ça compte quand même.
Mais alors, on le trouve où, le tardigrade ? Parce qu'on n'a pas dit, en fait. Il est où ?
On peut le trouver partout, sur la moquette.
Ah bon ?
Oui. On peut aussi le trouver dans l'endroit où on peut mieux le voir, c'est dans où on peut mieux le trouver, dans son état de cryptobiose.
Mm-hmm.
Sinon, c'est de la triche.
Donc, Marie, vous confirmez
C'est dans
tout
les
ça.
Bois.
Je confirme. Alors,
dans
peut-être pas dans la moquette. Peut-être pas dans la moquette, parce qu'il a besoin de manger. Il va manger quoi dans la moquette ? Il a besoin de manger des végétaux.
Il va manger la moquette.
Non, je pense pas qu'il mange la moquette, mais ça pourrait. Mais en tout cas, on peut le retrouver sur l'Everest, comme on peut le retrouver dans les abysses. Il y en a partout.
Romane.
On peut également le retrouver dans la mousse qui se trouve sur les rochers, par exemple.
Exactement. Moi, j'ai réussi une fois à en observer. Et c'était dans la petite mousse, dans la forêt. Hop, et puis en mettant de l'eau, en regardant au microscope, j'ai vu un tardigrade. C'était incroyable.
Donc, à l'œil nu, on peut le
non,
voir
Non, microscope. Quand même.
Parce que la taille, c'est minus.
Ouais, c'est un millimètre.
Ah oui, donc
exact, 0,1 à 1 millimètre. Donc là, à l'œil nu, c'est compliqué.
C'est compliqué. Puisque nous parlons des animaux invisibles aussi, hein. Bizarroïdes et invisibles. C'était la deuxième section de notre discussion, Marie. Très belle.
C'est ça.
Quels autres animaux vous avez envie de nous,
les insectes.
Nous parler ?
Vous aimez les insectes ?
Oui, pas tous, mais oui.
Pas tous, pourquoi ?
Pas tous.
Parce que ça pique.
Ça pique tous les insectes, ils piquent.
Parce que ça me rappelle quelques petits problèmes avec eux.
Tu t'es fait piquer
J'ai failli.
Ouais.
Mm-hmm. C'est pas passé loin.
Et les guêpes, vous aimez bien ?
Les guêpes, je me suis jamais frottée, alors tout va bien.
Bon. Roman.
Ah, moi, pour m'être déjà fait piquer par une guêpe, je peux dire que c'est pas très agréable.
Bon, donc, mauvaise réputation quand même. Hein. On voit, hein, les insectes, ça évoque tout de suite quelque chose d'un peu bizarre, Margot.
Moi aussi, pendant les grandes vacances, je me suis fait piquer par une guêpe. Bon. Ça fait hyper mal.
Et qu'est-ce qui t'est arrivé ? T'as gonflé un petit peu ?
Non, pas trop.
C'était où ? Tu t'es fait piquer au bras ?
Non, c'était en dessous du pied.
Bon, et ça t'a fait mal pendant longtemps ou pas ?
Ouais. Mais après, je suis allée dans la piscine, du coup. Ouais.
Bon, ça a été... Bon, tu n'en veux pas aux guêpes pour autant, ça va ?
Non.
Hein, il faut les laisser tranquilles, malgré tout.
Tiens, si on parlait... comme on parle de piscine,
oui,
ça me rappelle certains mauvais souvenirs. On était dans la villa d'un ami, avec ma mère et mon petit frère.
Mm-hmm.
Bah, si je mens, il vous dira si c'est vrai ou faux.
Et c'est quoi l'histoire, alors, exactement ?
Bah, l'histoire, c'est que je ressortais de la piscine, j'étais en train de me sécher, je sentais que ça me chatouillait sur la main, bizarre. Je regardais, il y avait... On était tout près de la jungle mexicaine. Il y avait une veuve noire sur ma main.
Oh, mon Dieu. Et alors ?
Quand elle était ici, j'ai dit, maman, il y a quelque chose qui... J'ai une araignée sur moi. Lorsqu'elle était ici, elle a vu...
Elle est montée jusque dans ton cou ?
Bah, elle allait entrer dans mon col.
Ouais.
J'ai rien pu faire, hein. J'ai pas envie de me faire piquer.
Bah oui, alors qu'est-ce qui s'est passé ?
Bah, ma mère, elle a enlevé la. Et l'ami, il l'a écrasée.
Bon, tout s'est bien passé. Donc, c'était une petite parenthèse, jungle mexicaine et veuve noire, parce qu'on était sur les guêpes.
Oui,
arrête de nous faire sortir voilà. Des sujets.
Oui, mais quoi, c'est aussi un animal qui pique.
Oui,
mais
c'est
aussi un insecte.
Un peu comme les dauphins, moi je voulais vous montrer ça, parce que ça c'est la guêpe qu'on connaît nous ici, quand on fait les pique-niques, elle vient de grignoter un petit peu.
Ah oui.
Mais est-ce que vous savez combien d'espèces de guêpes il y a dans le monde entier ?
Elias, à ton avis, un chiffre comme ça, boum !
10 un peu plus.
Ok, 10 un peu plus.
Bon.
Margot ?
30.
30. Johan, t'as une idée ?
Une quarantaine environ.
Alors, il y a 200 000 espèces de guêpes différentes dans le monde entier.
Vous êtes sûre de vos chiffres, Marie Trébert ?
Je suis sûre de mes chiffres.
200 000 ?
Et du coup, je vous en ai mis plein de petits exemples ici. Et je voulais vous parler d'une que j'adore et qu'on peut voir en France, qui s'appelle la guêpe potière. Est-ce que vous savez pourquoi on l'appelle comme ça ?
Non.
C'est quoi la poterie ?
Je l'ai jamais connue.
Hein ?
Parce qu'elle fait des pots.
Ouais.
Parce qu'elle vit dans les pots de plantes.
Mm-hmm.
D'abord, comme vous me le montrez, il y a les guêpes sociales et les guêpes maçonnes et potières.
Mm-hmm.
Je crois que c'est parce qu'elle fait les cocons de ses larves avec la forme des pots. C'est ça ?
Parce qu'elle fait des pots pour mettre ses œufs dedans.
Exactement.
Elle construit des pots toute seule. Hein.
Regardez. Elle va aller chercher de la boue, de la terre, et elle va les mélanger à sa petite bave, et avec sa bouche, elle va faire des petits pots comme ça. Et dedans, elle va pondre des œufs. Et après, à l'intérieur, pour nourrir ses larves, parce qu'une fois que les œufs vont éclore, il y aura des petites larves, des petits bébés guêpes, et bien elle va aller chercher souvent des larves de chenilles qu'elle va paralyser en les piquant, mais elles sont toujours vivantes, et elle va aller les mettre dans ce petit pot en terre pour qu'une fois que les petites guêpes vont éclore, ça puisse leur faire à manger. Elles sont paralysées, mais vivantes.
Et on la trouve où, cette guêpe potière ?
Ça, on peut en voir souvent l'été derrière les volets. On ouvre et puis il y a des petits trucs en terre qui tombent. Et on voit bien les petits insectes paralysés dedans.
Et elle pique, elle aussi, ou pas ?
C'est une bonne question. Je ne sais pas si elle a de dard.
Ouais.
Par contre, comment elle vit, alors ? Est-ce qu'elle vit en groupe, comme les abeilles, les guêpes qu'on connaît bien ? Quand je dis ça, je parle des guêpes. Il y a des guêpes, une ruche de guêpes.
Bien sûr, oui, alors tu as des espèces qui vivent, comme tu le dis, en ruche, donc qui sont sociales, mais tu as des guêpes et des abeilles qui sont solitaires, donc qui vivent toutes seules, qui n'ont pas besoin de vivre en société.
Marie, est-ce que vous avez un autre animal invisible dont vous aimeriez
Qu'est-ce que j'aimerais vous parler, On a déjà parlé un petit peu des abysses, mais celui-là, que vous le connaissez aussi.
Il est très bizarre. Elias, c'est quoi cet animal ?
C'est la baudroie abyssale.
Oh, ils sont fortiches.
Super
fortiches. Mais vous avez pas répété, vous aviez pas les questions et tout ça avant l'émission.
C'est qu'on a assisté. Oh, c'est vrai qu'on a assisté sur l'émission sur les abysses.
Et vous avez une bonne mémoire, surtout, apparemment.
Aussi, c'est qu'on s'est fait dédicacer. On avait acheté un livre sur le propos avec... On a eu de la chance. On s'est pris une dédicace. On a appris beaucoup de choses. Et on a pu assister à une émission de la Terre au Carré.
Et donc, vous avez parlé de la baudroie.
J'ai parlé de la baudroie parce que, une fois de plus, c'est important qu'on parle des abysses et qu'on s'y intéresse. Parce que quand on dit poisson, pareil, on imagine les petits poissons qu'on voit, nous, quand on va faire un peu de plongée ou qu'on nage dans la mer. Mais toutes ces espèces qui vivent dans les grands fonds, est-ce que vous savez quel est le point le plus profond des océans ?
Alors, Abel, toi, tu sais tout. Tu es interdit de réponse.
Allez, oh, c'est pas juste.
On va demander, à Johan. Alors, Johan, à ton avis.
C'est quoi le point le plus profond de tous les océans?
Combien de kilomètres? On peut parler.
Ah, on peut parler,
en kilomètres. Ouais. Comme ça, ça peut donner une indication. À ton avis.
Une centaine de kilomètres.
Ah, moins quand même.
Un petit peu moins, Margot. T'as une idée?
Une trentaine.
Moins.
On s'approche de la vérité, Elias.
Yes.
Une vingtaine.
Ah, on s'approche,
Bah, une dizaine.
Une dizaine, c'est pas mal.
Allez,
je dirais
Abel.
Cinq.
Eh ben non, on a passé...
11, la fosse des Mariannes, ça s'appelle. Il y a déjà des...
je savais que c'était la fosse, mais je me souvenais pas c'était quoi.
C'est ça, voilà. La fosse des Mariannes. Elle est où d'ailleurs cette fosse des Mariannes?
Elle est à côté des Philippines, Pacifique Ouest, ouais. Et donc bah, c'est le point le plus profond du monde. Il y a déjà des humains qui sont descendus en sous-marin, dont le célèbre réalisateur James Cameron.
Oui, descendu. C'est vrai.
Dans la fosse des Mariannes.
Et alors, la Baudroie qu'on voyait en photo, justement, elle vit dans ces grandes profondeurs?
Non, elle vit moins profond, mais pour autant, on ne la croise pas quand même très, très souvent. Et elle a sa célèbre petite lanterne qui brille sous l'eau pour attirer des prédateurs. On l'appelle aussi le poisson pêcheur, puisque c'est comme si elle avait une petite canne à pêche avec une ampoule.
Mais c'est ça, oui, on dirait une.
C'est une espèce d'antenne. On appelle ça un leurre bioluminescent.
Un dernier animal, Marie, avant de passer aux questions de nos camarades. Alors, ça, qu'est-ce que c'est?
Il est bien connu.
Un ver de terre.
Un ver de terre.
Bravo, Johan. Qu'est-ce qu'il a de spécial, celui-là?
Il paraît qu'il retourne souvent la terre pour. Et ça peut faire de meilleures récoltes.
Oui, c'est un bon laboureur, paraît-il. Johan?
Il a deux vies.
Il a deux vies.
Deux vies.
Quand il se coupe en deux, ça fait deux fois. Ça fait deux.
Margot.
On peut le couper, mais si on le coupe au niveau de la tête, il meurt.
Ouais.
Ok, alors pour le coup, moi je pense que si on coupe un ver de terre, il meurt, mais peut-être que. Mais il y a d'autres vers par contre qui ont cette capacité-là, des vers plutôt qui vivent dans l'eau. Mais
De se régénérer en fait.
Ils peuvent se couper en deux et régénérer leurs organes pour faire repousser leur tête. Mais
et pourquoi vous avez envie de nous parler du ver de terre, Marie?
Parce que justement, c'est une espèce souvent, moi je vois des gens qui les écrasent, qui les trouvent moches, etc. Alors que je peux vous dire que si on n'avait pas de ver de terre sous terre, eh ben, ça serait compliqué même pour qu'on puisse avoir à manger. Parce que les vers de terre, en creusant des petites galeries sous terre, eh ben, ils vont aérer, ils vont faire des petits... même leur caca s'appelle des turricules. Eh bien, ça nourrit la terre et ça permet de faire mieux pousser les plantes. Et par exemple, si on regarde un champ d'un agriculteur et si sa terre elle est toute morte sans vers de terre, les aliments vont moins, les plantes vont moins bien pousser. Et donc, je trouvais ça intéressant qu'on se dise, sous nos pieds aussi, quand on est dehors, il y a toute une faune incroyable, des tardigrades, des petits acariens, des vers, des mille-pattes et tous ces animaux-là, ils sont super importants. Il n'y aurait pas de forêt, il n'y aurait pas de plantes, il n'y avait pas tous ces petits animaux invisibles.
Abel, pour terminer, avant de passer aux questions des copains et des copines.
Simplement, je me disais, d'abord, il est où? Comme tu avais dit que tu savais pas si on pouvait couper en deux, t'as qu'à essayer.
Bon non, c'est trop triste. Je les aime bien, c'est mes copains, les vers de terre.
Ah oui,
je pense que c'est mieux de ne pas faire souffrir les animaux.
Ouais, on va éviter de le couper en deux.
Ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît, les enfants.
Allez, on passe aux questions.
On se disait. Ah, France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Et nous avons un premier message vocal de la part de Louison, qui nous a appelé sur l'appli Radio France.
Bonjour, je voudrais savoir si le poisson qu'on voit avec un gros nez dans Bob l'éponge, c'est vraiment un blobfish.
Alors Marie, c'est la colle ou pas?
Là, c'est la colle parce que Bob l'éponge, j'ai un peu consommé, mais pas à ce point. Alors, je sais qu'il y en a un...
Cherchez dans vos souvenirs de Bob l'éponge.
Je crois pas qu'il y ait de blobfish dans Bob l'éponge. Non.
Margot. Dans Bob l'éponge, il y a un poisson avec un nez qui pend, mais il n'y a pas de...
Mais c'est pas un poisson, c'est une espèce de poulpe.
Humain.
C'est un calamar.
C'est un peu un humain avec un nez...
C'est Barry Blobfish, paraît-il. Donc il y aura un Blobfish.
C'est pas vrai. Il faut que je me remette à Bob l'éponge.
Absolument. Donc on confirme que c'est un Blobfish, effectivement. Autre question sur l'appli Radio France.
Bonjour France Inter et bonjour Mathieu Vidard. On aime la Terre au carré sur France Inter, donc on célèbre le lancement de mon petit France Inter. Merci.
Eh ben, on est ravis, mais c'est un petit message comme ça qui arrive pour nous annoncer qu'effectivement, aujourd'hui, c'est le lancement de Mon Petit France Inter. C'est pour ça qu'on est tous réunis avec les enfants autour de ce micro. Allez, une autre note vocale, un autre message vocal. Non. Alors, est-ce qu'on a des messages écrits pour nos invités? Je crois que oui. Romane,
Moi, j'avais juste une question.
Une question, oui.
En gros, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on connaît mieux la surface de la Lune que le fond des abysses. Est-ce que c'est vrai ou pas?
Bah oui, alors après sur la surface de la Lune, il n'y a pas de... Oui, en tout cas, il n'y a pas d'animaux, mais c'est vrai que je ne sais plus où j'avais lu qu'on connaît plus les étoiles que la biodiversité et le nombre d'animaux qui existent vraiment sur Terre. Donc encore plein de choses à découvrir.
Ouais. Et c'est vrai que les profondeurs, on a tellement de difficultés techniques à descendre qu'on envoie plus facilement des robots dans l'espace.
C'est ça, on a des...
Oui, Abel.
Mais par contre... Vous avez dit qu'on connaît mieux la surface de la Lune que les abysses, mais on la connaît pas parfaitement. Mais on la connaît. Est-ce que c'est comme on la connaît pas parfaitement, c'est on la connaît un petit peu mieux que les abysses?
Alors ça, je sais pas si on peut comparer entre les abysses et la surface de la Lune, mais on a fait quand même pas mal d'expéditions maintenant, quand même, dans les abysses. Hein.
Oui, donc, bien sûr. Et après, abysses, ça veut pareil, un peu tout et rien dire. C'est entre 1000 à 6000 mètres de fond. Donc, 1000, on va commencer à pouvoir envoyer des engins. Si on commence à vouloir descendre à 6000, 11000 dans la fosse des Mariannes, c'est difficile d'étudier tout ça.
Ulysse demande... lui, il nous parle d'un autre animal bizarre qu'il aime bien, c'est l'axolote.
Ah, oui.
Il a 8 ans, ça ressemble à quoi, l'axolote? Tu sais, Abel?
Oui, c'est un espèce... Vous avez une photo?
J'ai pas une photo, mais tu peux nous la décrire.
Ouais, à quoi ça ressemble.
Ça serait plus facile avec une photo, c'est sûr.
Alors, Elias, mais bon,
ça
peux nous le décrire.
Ça ressemble à un lézard avec deux branches, deux branches sur la tête. Et en fait, la queue, c'est un peu une queue avec un truc en bas ou en haut.
C'est ça, c'est des salamandres en fait. C'est un peu comme des salamandres.
Oui, et elles peuvent avoir plusieurs couleurs. Les couleurs, d'abord, c'est des espèces protégées.
Oui.
Donc,
C'est un petit animal ou pas, l'axolote?
Oui, c'est un animal.
Ah oui, c'est une belle bête quand même.
Et effectivement, comme tu disais, il y a deux couleurs. Et dans les animaleries, on peut acheter des axolotes.
Ah
ça,
bon
c'est incroyable.
Oui,
mais est-ce que tu savais qu'à l'état sauvage, parce que quand on va dans les animaleries, on se dit il y a des axolotes dans les aquariums, il doit y en avoir plein sur Terre. Ils sont en danger d'extinction dans la nature.
Oui, par exemple, les bateaux touristiques, ils peuvent les menacer.
Et donc, on les vend quand même, on a le droit de les vendre, c'est autorisé.
Parce que c'est une modification génétique qu'on a pu faire, des croisements pour en faire des espèces domestiques.
Ouais.
Mais à l'état sauvage, l'axolote, il n'y en a que dans un seul endroit au monde, c'est au Mexique, dans un lac.
Ils sont en train de
disparaître.
Oui, mais aussi, il paraît qu'il y en a un petit peu. Il y en a 27 espèces au Mexique et une seule au Canada.
Elias, qu'est-ce que tu voulais dire?
C'est pas dans un lac, c'est dans deux lacs. Il y a deux lacs.
Soyons précis.
Voilà, c'est des canaux. C'est des anciens canaux mayas, d'ailleurs, dans de l'eau douce.
Allez, on va écouter un petit message de Lise qui nous a laissé justement sa voix sur l'application Radio France.
Bonjour. J'aimerais savoir pourquoi les girafes, ils ont un cou aussi long.
Alors, les girafes...
Il faut demander à Charles Darwin, ça.
Ouais.
Pourquoi les girafes...
C'est un grand sujet d'étude, d'ailleurs.
Bien sûr. Pourquoi les girafes? C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle... elles sont adaptées à leur milieu. Donc, ça peut être pour manger des petites feuilles, voir plus loin, etc. Et c'est la sélection naturelle qui a fait que les individus qui avaient les plus grands coups, au fil du temps... ont été avantagés.
Margot, tu voulais poser une question?
Non.
Je t'ai vu lever le doigt, donc je me suis dit, tiens, Margot a envie de poser une question. Est-ce qu'il nous reste un petit peu de temps? Ben non, c'est déjà la fin de cette émission.
Mais non.
Mais c'est incroyable, ça passe à une vitesse.
Je peux rester encore 2 heures.
Merci Marie Treiber, merci d'être avec nous pour cette balade au pays des animaux bizarres. Je renvoie sur 2 livres que vous avez publiés. Les animaux bizarroïdes, c'est chez Larousse, avec plein de photos magnifiques. Et Petite folie du vivant, c'est chez Debec, c'est bien ça?
Tout à fait.
Et je remercie beaucoup Romane, Margot, Johan, Abel et Elias, vous avez été formidables. Merci beaucoup d'être venu au micro de la Terre au Carré. Bon retour à l'école demain. Et puis c'est donc aujourd'hui le lancement de cette nouvelle radio, Mon Petit France Inter, disponible sur la plateforme Radio France et radio pour les plus jeunes, sans pub en plus, à partir de 2 ans.